Chapitre 52. Le crédit social et l'enseignement des papes. Article d'Alain Pilote paru dans Verdemain de mai 1995. Christianisme appliqué. C.H. Douglas a déjà dit que le crédit social pouvait être défini en deux mots. Christianisme appliqué. En effet, une étude comparative du crédit social et de la doctrine sociale de l'Église montre jusqu'à quel point l'établissement des propositions financières du crédit social appliquerait à merveille l'enseignement de l'Église sur la justice sociale. Primauté de la personne. La doctrine sociale de l'Église peut se résumer dans ce principe de base. La primauté de la personne humaine. La doctrine sociale chrétienne a pour lumière la vérité, pour objectif la justice et pour force dynamique l'amour. Son principe de base est que les êtres humains sont et doivent être fondement, but et sujet de toutes les institutions où se manifeste la vie sociale. Jean 23, encyclique Mater et Magistrat, 15 mai 1961, numéro 219 et 226. Les systèmes au service de l'homme. Le crédit social partage la même philosophie. C.H. Douglas écrivait au début de son tout premier livre, Economic Democracy, « Les systèmes sont faits pour l'homme et non pas l'homme pour les systèmes, et l'intérêt de l'homme, qui est son propre développement, est au-dessus de tous les systèmes. » Et Jean-Paul II écrivait dans sa première encyclique, « Redemptor hominis », 4 mars 1979, numéro 15, l'homme ne peut renoncer à lui-même, ni à la place qui lui est propre dans le monde visible. Il ne peut devenir esclave des choses, esclave des systèmes économiques, esclave de ses propres produits. Tous les systèmes doivent être au service de l'homme, y compris les systèmes financiers et économiques. En tant que société démocratique, veillez attentivement à tout ce qui se passe dans le puissant monde de l'argent. Le monde de la finance est aussi un monde humain, notre monde, soumis à la conscience de nous tous. Pour lui aussi, il y a des principes éthiques. Veillez donc surtout à ce que vous apportiez une contribution au service du monde avec votre économie et vos banques, et non une contribution peut-être indirecte, à la guerre et à l'injustice. Jean-Paul II, Fluelli, Suisse, 14 juin 1984. Les banquiers contrôlent l'argent. L'argent devrait être un instrument de service. Mais les banquiers, en s'en réservant le contrôle de la création, en ont fait un instrument de domination. Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres absolus de l'argent et du crédit, gouvernent le crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent le sang à l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que sans leur consentement, nul ne peut plus respirer. Pie XI, encyclique Quadragesimo Anno, 15 mai 1931. La création d'argent sous forme de dette par les banquiers est leur moyen d'imposer leur volonté sur les individus et de contrôler le monde. Parmi les actes et les attitudes contraires à la volonté de Dieu et au bien du prochain, et les structures qu'ils introduisent, deux éléments paraissent aujourd'hui les plus caractéristiques. D'une part, le désir exclusif du profit et, d'autre part, la soif du pouvoir dans le but d'imposer aux autres sa propre volonté. Jean-Paul II, encyclique Sollicitudo Rei Socialis, sur la question sociale, 30 décembre 1987, numéro 37. Puisque l'argent est un instrument essentiellement social, la doctrine du crédit social propose que l'argent soit émis par la société et non par des banquiers privés pour leur profit. Il y a certaines catégories de biens pour lesquels on peut soutenir avec raison qu'ils doivent être réservés à la collectivité lorsqu'ils en viennent à conférer une puissance économique telle qu'elle ne peut, sans danger pour le bien public, être laissée entre les mains de personnes privées. Pie XI, encyclique Quadragesimo Anno. Des dettes impayables. L'obligation de remettre au banquier de l'argent qu'il n'a pas créé entraîne des dettes impayables. Les pays débiteurs, en effet, se trouvent placés dans une sorte de cercle vicieux. Ils sont condamnés, pour pouvoir rembourser leurs dettes, à transférer à l'extérieur, dans une mesure toujours plus grande, des ressources qui devraient être disponibles pour leur consommation et leur investissement interne, donc pour leur développement. Le service de la dette ne peut être acquitté au prix d'une asphyxie de l'économie d'un pays, et aucun gouvernement ne peut moralement exiger d'un peuple des privations incompatibles avec la dignité des personnes. S'inspirant de l'Évangile, d'autres comportements seraient envisagés, comme consentir des délais, remettre partiellement ou même totalement les dettes. En certains cas, les pays créanciers pourront convertir les prêts en dons. L'Église rappelle la priorité à accorder aux hommes et à leurs besoins, par-delà les contraintes et les techniques financières souvent présentées comme seules impératives. Une approche éthique de l'endettement international, document de la Commission pontificale Justice et Paix, 27 décembre 1986. Il n'est pas licite de demander et d'exiger un paiement quand cela reviendra à imposer, en fait, des choix politiques de nature à pousser à la faim et au désespoir des populations entières. On ne saurait prétendre au paiement des dettes contractées si c'est au prix de sacrifices insupportables. Dans ce cas, il est nécessaire, comme du reste, cela est en train d'être partiellement fait, de trouver des modalités d'allègement de report ou même d'extinction de la dette, compatible avec le droit fondamental des peuples à leur subsistance et à leur progrès. Jean-Paul II, encyclique Sanctissimus Annus, 1er mai 1991, numéro 35. L'impérialisme de l'argent. L'Église condamne à la fois le capitalisme libéral et le communisme marxiste. À remarquer que ce n'est pas le capitalisme en soi que l'Église condamne, mais le capitalisme libéral, un certain capitalisme, car l'Église sait faire la distinction dans le système capitaliste entre le système producteur et le néfaste système qui l'accompagne, le système financier. Ce libéralisme sans frein conduit à la dictature à bon droit de dénoncer par Pie XI comme génératrice de l'impérialisme de l'argent. On ne saurait trop réprouver de tels abus en rappelant encore une fois solennellement que l'économie est au service de l'homme. Mais s'il est vrai qu'un certain capitalisme a été la source de trop de souffrances, d'injustices et de luttes fratricides aux effets durables, c'est à tort qu'on attribuerait à l'industrialisation elle-même des maux qui sont dus au néfaste système qui l'accompagnait. Il faut, au contraire, en toute justice, reconnaître l'apport irremplaçable de l'organisation du travail et du progrès industriel à l'œuvre du développement. Paul VI, encyclique Populorum Progressio, sur le développement des peuples, 26 mars 1967, numéro 26. La propriété privée. Les maux qu'on reproche au système capitaliste actuel ne proviennent pas de sa nature, propriété privée, libre entreprise, mais du système financier qu'il utilise, un système financier qui domine au lieu de servir, qui vicie le capitalisme. 1919. Les papes, loin de souhaiter la disparition de la propriété privée, souhaitent plutôt sa diffusion la plus large possible pour tous. La dignité de la personne humaine exige normalement, comme fondement naturel pour vivre, le droit à l'usage des biens de la terre. À ce droit correspond l'obligation fondamentale d'accorder une propriété privée autant que possible à tous. Il faut mettre en branle une politique économique qui encourage et facilite une plus ample accession à la propriété privée des biens durables. Une maison, une terre, un outillage artisanal, l'équipement d'une ferme familiale, quelques actions d'entreprise moyennes ou grandes. Jean 23, Mater et Magistrat, numéro 114-115. Tous capitalistes. Que tous soient réellement capitalistes et aient accès aux biens de la terre. Cela serait rendu possible par le dividende du crédit social, qui appliquerait concrètement cet autre principe de base de la doctrine sociale de l'Église. Les biens de la terre sont destinés à tous les hommes. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon les règles de la justice inséparables de la charité. Concile Vatican II, Constitution Gaudium et Spes, numéro 69. Dans sa première encyclique de Deus Caritas Est, Dieu est amour, le pape Benoît XVI a écrit « L'Église est la famille de Dieu dans le monde. Dans cette famille, personne ne doit souffrir par manque du nécessaire. » Le but d'un ordre social juste consiste à garantir à chacun, dans le respect du principe de subsidiarité, sa part du bien commun. Le dividende du crédit social est basé sur deux choses, l'héritage des richesses naturelles et des inventions des générations précédentes. L'homme, par son travail, hérite d'un double patrimoine. Il hérite d'une part de ce qui est donné à tous les hommes sous forme de ressources naturelles et, d'autre part, de ce que tous les autres ont déjà élaboré à partir de ces ressources en réalisant un ensemble d'instruments de travail toujours plus parfaits. Tout en travaillant, l'homme hérite du travail d'autrui. Jean-Paul II, encyclique Laborem Exercens, sur le travail humain, 15 septembre 1981, numéro 12. La technologie n'est pas un mal en soi, et avec le dividende, elle pourrait être mise au service de l'homme et ne le blâmerait plus de supprimer des emplois. La technologie a tant contribué au bien-être de l'humanité, elle a tant fait pour améliorer la condition humaine, servir l'humanité et faciliter son labeur. Pourtant, à certains moments, la technologie ne sait plus vraiment où se situe son allégeance. Elle est pour l'humanité ou contre elle. Pour cette raison, mon appel s'adresse à tous les intéressés, à quiconque veut apporter une contribution pour que la technologie qui a tant fait pour édifier Toronto et tout le Canada serve véritablement chaque homme, chaque femme et chaque enfant de ce pays. Jean-Paul II, Toronto, Canada, 17 septembre 1984. Mais si on veut persister à tenir tout le monde, hommes et femmes, employés dans la production, même si la production pour satisfaire les besoins de base est déjà toute faite, et cela avec de moins en moins de labeur humain, alors il faut créer de nouveaux emplois complètement inutiles, et dans le but de justifier ces emplois, créer de nouveaux besoins artificiels, par une avalanche de publicité pour que les gens achètent des produits dont ils n'ont pas réellement besoin. C'est ce qu'on appelle la société de consommation. De même, on fabriquera des produits dans le but qu'ils durent le moins longtemps possible, dans le but d'en vendre plus et faire plus d'argent, ce qui entraîne un gaspillage non nécessaire des ressources naturelles et la destruction de l'environnement. Aussi, on persistera à maintenir des travaux qui ne nécessitent aucun effort de créativité, qui ne demandent que des efforts mécaniques, qui pourraient facilement être faits uniquement par des machines, des travaux où l'employé n'a aucune chance de développer sa personnalité. Mais pour cet employé, ce travail, si déshumanisant soit-il, est la condition d'obtenir l'argent, le permis de vivre. Ainsi, pour lui et pour une multitude de salariés, la signification de leur emploi se résume à ceci. Aller travailler pour obtenir l'argent qui servira à acheter le pain, qui leur donnera la force d'aller travailler pour gagner l'argent, et ainsi de suite, jusqu'à l'âge de la retraite, s'ils ne meurent pas avant. Voilà une vie vide de sens, où rien ne différencie l'homme de l'animal. Activité libre. Justement, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'homme n'a pas seulement que des besoins matériels, il a aussi des besoins culturels, spirituels. Comme dit Jésus dans l'Évangile, « L'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Vouloir occuper tout le temps de l'homme à l'entretien de sa vie matérielle, c'est du matérialisme, mais car c'est nier que l'homme a aussi une dimension et des besoins spirituels. Mais alors, si l'homme n'est pas employé dans un travail salarié, que va-t-il faire de ses temps libres? Il l'occupera à faire des activités libres, des activités de son choix. C'est justement dans ses temps libres que l'homme peut vraiment développer sa personnalité, développer les talents que Dieu lui a donnés et les utiliser à bon escient. De plus, c'est durant leur temps libre que l'homme et la femme peuvent s'occuper de leurs devoirs familiaux, religieux et sociaux, élever leur famille, pratiquer leur religion, connaître, aimer et servir Dieu, venir en aide à leurs prochains, élever des enfants est le travail le plus important au monde. Mais parce que la femme qui reste au foyer pour élever ses enfants ne reçoit pas de salaire, on considère qu'elle ne fait rien, qu'elle ne travaille pas. Être libéré de la nécessité de travailler pour produire les biens essentiels à la vie ne signifie aucunement paresse. Cela signifie tout simplement que l'individu est alors en possession de choisir l'activité qui l'intéresse. Sous un système de crédit social, il y aura une floraison d'activités créatrices. Par exemple, les grandes inventions, les plus grands chefs-d'œuvre de l'art ont été accomplis dans des temps libres. Comme le disait C.H. Douglas, « La majorité des gens préfèrent être employés, mais dans des choses qu'ils aiment plutôt que dans des choses qu'ils n'aiment pas. Les propositions du crédit social ne visent aucunement à produire une nation de paresseux. Le crédit social permettrait aux gens de s'adonner aux travaux pour lesquels ils sont qualifiés. Un travail que vous faites bien est un travail que vous aimez, et un travail que vous aimez est un travail que vous faites bien. » La misère en face de l'abondance. Dieu a mis sur la terre tout ce qu'il faut pour nourrir tout le monde, mais à cause du manque d'argent, les produits ne peuvent plus joindre les gens qui ont faim. Des montagnes de produits s'accumulent en face de millions qui meurent de faim. C'est le paradoxe de la misère en face de l'abondance. Quel cruel paradoxe de vous voir si nombreux ici même en détresse financière, vous qui pourriez travailler pour nourrir vos semblables, alors qu'au même moment la faim, la malnutrition chronique et le spectre de la famine touchent des milliers de gens ailleurs dans le monde. Jean-Paul II, au Pêcheur, Saint John Sterneuve, 12 septembre 1984. Jamais, plus jamais la faim, mesdames et messieurs. Cet objectif peut être atteint. La menace de la faim et le poids de la malnutrition ne sont pas une fatalité inéluctable. La nature n'est pas, en cette crise, infidèle à l'homme. tandis que, selon l'opinion généralement acceptée, 50% des terres cultivables ne sont pas encore mises en valeur. Le fait s'impose du scandale d'énormes excédents alimentaires que certains pays détruisent périodiquement, faute d'une sage économie qui en aurait assuré une consommation utile. Nous touchons ici au paradoxe de la situation présente. L'humanité dispose d'une maîtrise inégalée de l'univers. Elle dispose des instruments capables de faire rendre à plein les ressources de celui-ci. Les détenteurs même de ces instruments resteront-ils comme frappés de paralysie devant l'absurde d'une situation où la richesse de quelques-uns tolérerait la persistance de la misère d'un grand nombre? On ne saurait en arriver là sans avoir commis de graves erreurs d'orientation, ne serait-ce parfois que par négligence ou omission. Il est grand temps de découvrir en quoi les mécanismes sont faussés, afin de rectifier, ou plutôt de redresser de bout en bout la situation. Paul VI à la Conférence mondiale de l'alimentation, Rome, 9 novembre 1974. De toute évidence, il y a un défaut capital, ou plutôt un ensemble de défauts, et même un mécanisme défectueux à la base de l'économie contemporaine et de la civilisation matérialiste, qui ne permettent pas à la famille humaine de se sortir, dirais-je, de situations aussi radicalement injustes. Jean-Paul II, encyclique Divis, in Misericordia, 30 novembre 1980, numéro 11. La misère en face de l'abondance représente en quelque sorte un gigantesque développement de la parabole biblique du riche qui festoie et du pauvre Lazare. L'ampleur du phénomène met en cause les structures et les mécanismes financiers, monétaires, productifs et commerciaux qui, appuyés sur des pressions politiques diverses, régissent l'économie mondiale. Il s'avère incapable de résorber les injustices héritées du passé et de faire face aux défis urgents et aux exigences éthiques du présent. Nous sommes ici en face d'un drame dont l'ampleur ne peut laisser personne indifférent. Jean-Paul II, Redemptor, Hominis, numéro 15. Réforme du système financier. Le pape dénonce la dictature de l'argent rare et demande une réforme des systèmes financiers et économiques. L'établissement d'un système économique au service de l'homme. Je tiens encore à aborder une question délicate et douloureuse. Je veux parler du tourment des responsables de plusieurs pays qui ne savent plus comment faire face à l'angoissant problème de l'endettement. Une réforme structurelle du système financier mondial est sans nul doute une des initiatives les plus urgentes et nécessaires. Jean-Paul II, message à la 6e session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Genève, 26 septembre 1985. Il est nécessaire de dénoncer l'existence de mécanismes économiques, financiers et sociaux qui, bien que menés par la volonté des hommes, fonctionnent souvent d'une manière quasi automatique, rendant plus rigides les situations de richesse des uns et de pauvreté des autres. Jean-Paul II, encyclique Sollicitudo Rei Socialis, numéro 16. Je fais appel à tous les chargés de pouvoir afin qu'ensemble ils s'efforcent de trouver les solutions aux problèmes de l'heure, ce qui suppose une restructuration de l'économie de manière à ce que les besoins humains l'emportent toujours sur le gain financier. Jean-Paul II, aux pêcheurs de St. John's d'Anneuve, 12 septembre 1984. Une condition essentielle est de donner à l'économie un sens humain et une logique humaine. Ce que j'ai dit au sujet du travail est également valable ici. Il importe de libérer les divers champs de l'existence de la domination d'une économie écrasante. Il faut mettre les exigences économiques à la place qui leur revient et créer un tissu social multiforme qui empêche la massification. Chrétiens, en quelque lieu que vous soyez, assumez votre part de responsabilité dans cet immense effort pour la reconstruction humaine de la cité. La foi vous en fait un devoir. Jean-Paul II, discours aux ouvriers de Sao Paulo, 3 juillet 1980. Devoir de tout chrétien. C'est en effet un devoir et une obligation pour tout chrétien de travailler à l'établissement de la justice et d'un meilleur système économique. Celui qui voudrait renoncer à la tâche, difficile mais exaltante, d'améliorer le sort de tout l'homme et de tous les hommes, sous prétexte du poids trop lourd de la lutte et de l'effort incessant pour se dépasser, ou même parce qu'on a expérimenté l'échec et le retour au point de départ, celui-là ne répondrait pas à la volonté du Dieu créateur. Jean-Paul II, Sollicitudo, Rei Socialis, numéro 30. La tâche n'est pas impossible. Le principe de solidarité au sens large doit inspirer la recherche efficace d'institutions et de mécanismes appropriés. Il s'agit aussi bien de l'ordre des échanges, où il faut se laisser guider par les lois d'une saine compétition, que de l'ordre d'une plus ample et plus immédiate redistribution des richesses. Jean-Paul II, Redemptor Hominis, numéro 16. Ces attitudes et ces structures de péché ne peuvent être vaincues, bien entendu avec l'aide de la grâce divine, que par une attitude diamétralement opposée, se dépenser pour le bien du prochain. Jean-Paul II, Sollicitudo, Rei Socialis, numéro 38. Des apôtres. Vous tous qui avez entendu l'appel des peuples souffrants, vous tous qui travaillez à y répondre, vous êtes les apôtres du bon et du vrai développement, qui n'est pas la richesse égoïste et aimée pour elle-même, mais l'économie au service de l'homme, le pain quotidien distribué à tous, comme source de fraternité et signe de la providence. Paul VI, Populorum Progressio, numéro 86. Principes et applications. Certains diront que les papes n'ont jamais approuvé publiquement le crédit social. En fait, les papes n'approuveront jamais publiquement aucun système économique, telle n'est pas leur mission. Ils ne donnent pas de solution technique, ils ne font qu'établir les principes sur lesquels doit être basé tout système économique véritablement au service de la personne humaine, et ils laissent aux fidèles le soin d'appliquer le système qui appliquerait le mieux ces principes. Or, à notre connaissance, aucune autre solution n'appliquerait aussi parfaitement la doctrine sociale de l'Église que le crédit social. C'est pourquoi Louis Vent, grand catholique qui ne manquait pas de logique, ne se gênait pas pour faire ressortir les liens entre le crédit social et la doctrine sociale de l'Église. Un autre qui était convaincu que le crédit social est le christianisme appliqué, qu'il appliquerait à merveille l'enseignement de l'Église sur la justice sociale, c'est le père Peter Coffey, docteur en philosophie et professeur au collège de Maynooth en Irlande. Voici ce qu'il écrivait à un jésuite canadien, le père Richard, en mars 1932. Les difficultés posées par vos questions ne peuvent être résolues que par la réforme d'un système financier du capitalisme. Sous les lignes suggérées par le major Douglas et l'école créditiste du crédit. C'est le système financier actuel qui est à la racine des maux du capitalisme. L'exactitude de l'analyse faite par Douglas n'a jamais été réfutée, et la réforme qu'il propose avec sa fameuse formule d'ajustement des prix est la seule réforme qui aille jusqu'à la racine du mal. En 1939, les évêques du Québec avaient chargé une commission de 9 théologiens d'étudier le crédit social en regard de la doctrine sociale de l'Église, pour savoir s'il était entaché de socialisme, et ils concluaient qu'il n'y avait rien dans la doctrine du crédit social qui était contraire à l'enseignement de l'Église, et que tout catholique était donc libre d'y adhérer sans danger. Voir l'annexe A. Pour le texte complet de cette étude des 9 théologiens. Ce rapport des théologiens n'avait pas fait l'affaire des financiers, et en 1950, un groupe d'hommes d'affaires chargèrent un évêque de Québec, du Québec, dont nous tairons le nom par respect pour sa mémoire, d'aller à Rome pour obtenir du pape Pie XII une condamnation du crédit social. De retour au Québec, cet évêque fit rapport aux hommes d'affaires. Pour avoir une condamnation du crédit social, ce n'est pas à Rome qu'il faut aller. Pie XII m'a répondu, le crédit social créerait dans le monde un climat qui permettrait l'épanouissement de la famille et du christianisme. Que tous ceux qui ont soif de justice se mettent donc à étudier et à répandre le crédit social en prenant de l'abonnement à Vers demain. Abonnez-vous à Vers demain. Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre. Tous ces articles sont tirés du journal Vers demain, publié 5 fois par année. Alors, abonnez-vous au plus vite à ce journal et faites-le connaître à vos amis. Il est même publié en 4 langues, français, anglais, espagnol et polonais. Le prix de l'abonnement est de 20 $ pour 4 ans pour le Canada et les États-Unis, de 24 $ pour 2 ans pour les autres pays. Pour l'Europe, 18 € pour 2 ans. Envoyez votre chèque ou mandat poste, accompagné de votre nom et adresse, en spécifiant dans quelle langue vous voulez recevoir le journal. A. Journal Vers demain, 1101 rue principale, Rougemont, Québec, Canada, JOL1MO, téléphone 450-469-2209. Pour plus de détails, consultez le site Internet. www.verdemain.org